Oui, bonjour, je suis Sophie de Besançon. Je voulais dire que comme le colibri ce matin, je pleure la mort de Pierre Rabhi, un homme remarquable. Merci, bonne journée, au revoir.
Ouais, bonjour, je m'appelle Fanny, je vous appelle de Saï-sous-Couzan dans la Loire. Je viens d'entendre l'émission sur la Loire, là. Donc déjà, je proposerai, suite au débat que vous avez eu l'autre jour dans votre émission, où il y avait deux interlocuteurs sur le nucléaire, donc je proposerai à tous ces gens pro-nucléaire d'aller habiter à côté d'une centrale nucléaire. On entend bien dans les propos de la dame sur la Loire les déchets, la consommation hallucinante d'eau de la rivière pour refroidir les réacteurs. Et puis je voudrais parler d'un projet dans la Loire d'écologie, hein, d'énergie verte. Au-dessus de Jansanière, il y a des éoliennes qui vont être construites. C'est un projet qatari avec des éoliennes construites au Portugal. Moi, je comprends pas pourquoi on n'écoute toujours pas Jérémy Rifkin, que vous aviez invité il y a des années, et qui propose qu'on transforme chaque maison en petite centrale d'énergie. Et là, on va raser des forêts encore, des arbres, pour construire des éoliennes qui servent à rien, et où la perdition d'électricité sur les réseaux, le temps qu'elles arrivent aux maisons, équivaut quasiment à leur consommation. Voilà, on vit dans un monde ahurissant, mais j'ai choisi de faire ma mini-révolution personnelle. J'élève mes 8 vaches laitières. Merci pour vos émissions et pour toute cette culture que vous m'apportez. Moi qui travaille comme une conne avec mes vaches pendant des heures dans la boue. Je vous remercie. Bon courage à tous. Hein. Salut.
Bonjour, c'est Claudine de Grasse. Pierre Rabhit et Jean-Marie Pelt vont continuer dans un monde meilleur leur dialogue. Oui, l'homme n'est pas foncièrement mauvais. Merci à ces hommes de bonne volonté et à Denis Chessou de nous les faire réentendre. Bonne journée.
Bonjour, la Terre au carré. J'ai la belle surprise d'entendre Francis aller dans la voiture. Je me suis arrêtée pour vous laisser ce vocal. J'ai eu la chance extraordinaire d'assister à la projection du film d'Antoine de Maximy à Villefavard. C'était génial. J'y pense encore avec des étoiles plein les yeux. Et ce soir, quand je vais écouter le podcast, j'aurai de nouveau des étoiles plein les yeux. Merci, merci, merci.
Bonjour, Jean-Baptiste du Givre, en Vendée, le centre du monde. Je vous appelle pour vous remercier parce que j'étais séquestré. Séquestré depuis la fin de l'été, là, il n'y avait plus de holma. Mes 4 enfants me tenaient baïonnés et depuis hier, ça y est, j'ai retrouvé la liberté. Eh bien, grand merci et continuez comme ça, c'est vraiment génial. Merci.
Bonjour, Bruno, en Ariège, à Bordes-sur-Lèze. Je voulais faire un message pour rendre hommage à Pierre Rabhi qui nous a quittés. Un homme de petite taille mais qui a fait de grandes choses, qui est un grand philosophe et qui nous laissera toutes les graines qu'il a semées, je pense, dans le cœur de chacun. Donc, un grand hommage à cet homme, Pierre Rabhi, et à la sobriété heureuse. Au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Le printemps dernier, en plein confinement, on apprenait la création d'un observatoire épidémiologique ayant pour ambition de suivre l'état sanitaire de la population en analysant les eaux usées. Il est en effet possible, justement, de tracer l'évolution d'une épidémie comme le Covid-19 en quantifiant la présence du virus et de ses variants dans les eaux usées des stations d'épuration. Ce réseau qui permet aujourd'hui de donner des informations précieuses sur la circulation du virus dans 200 stations de traitement, eh bien, ne fait pourtant pas encore l'unanimité. C'est l'occasion cet après-midi dans la Terre au carré, eh bien d'en parler pour comprendre comment sont traitées nos eaux usées et quel est exactement l'intérêt de les observer pendant une crise sanitaire. Pour en discuter, Vincent Maréchal et Laurent Moulin sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Vincent Maréchal, vous êtes virologue à Sorbonne Université et directeur donc du réseau de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées pour ce consortium Aubépine. Et Laurent Moulin, vous êtes docteur en microbiologie, responsable de la recherche à Hauts-de-Paris et co-directeur du réseau Aubépine. On va donc se retrouver dans un instant avec les messages et les questions sur la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Au programme.
La mort de Pierre Rabhi, des réactions contrastées.
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Colin Gruel avec Florian Dorimini à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. sur France Inter.
Cette eau contient-elle du Covid-19? La réponse intéresse de plus en plus les autorités. 30 stations d'épuration envoient ici leurs prélèvements. Dans les eaux usées, la présence du virus peut être détectée avant même l'apparition des symptômes chez les patients et chez les asymptomatiques.
Et c'est le thème donc de la Terre au carré cet après-midi, à l'instant, un extrait du journal de 20h en janvier dernier. Traitement de nos eaux usées, présence des virus, dossier donc pour comprendre comment on peut utiliser justement ces eaux non potables pour détecter la présence d'agents infectieux. Vincent Maréchal et Laurent Moulin, vous faites donc tous les deux partie de ce réseau Aubépine qui a été créé donc l'année dernière. Le 19 octobre, là, il y a quelques jours, donc a été lancé le groupement d'intérêt scientifique Aubépine, ça veut dire observatoire donc épidémiologique dans les eaux usées. Ce réseau s'occupe de quoi exactement, Vincent Maréchal ?
Alors, c'est un groupement de laboratoires. On a 8 équipes de recherche. Alors, Sorbonne Université, Hauts-de-Paris, Université de Lorraine, Clermont-Ferrand, l'IRBA et l'IFREMER participent à ce réseau. Mmh. Et l'objectif, c'est d'agréger des compétences scientifiques variées autour d'une problématique qui est comment utiliser l'information qu'il y a dans les eaux usées pour renseigner sur l'état de santé des populations. Et parmi les projets, effectivement, il y a la création de ce réseau de surveillance de 200 stations d'épuration actuellement,
oui,
qui couvre 40% à peu près de la population française en équivalent habitant et qui nous permet maintenant d'avoir des grandes lignes dynamiques sur l'évolution de l'épidémie depuis quasiment maintenant le début du mois de mars 2020.
Donc c'est vraiment le virus SARS-CoV-2, donc le Covid, qui a permis l'émergence de ce nouveau dispositif là exactement ?
Oui, alors tout à fait. En fait, l'idée était simple. C'était qu'à l'époque, souvenez-vous, il n'y avait pas de test individuel en mars 2020. Il y avait un virus qui rentrait sur les territoires. On ne savait pas exactement quand et dans quelles conditions. Et il fallait pouvoir apporter un outil épidémiologique. Alors qu'est-ce qu'on avait ? On avait une maladie qui n'est pas toujours symptomatique, avec des signes qui ne sont pas toujours très clairs, pas de test pour repérer individuellement les sujets porteurs, beaucoup de personnes asymptomatiques également, hein, ça c'est une des difficultés, et des informations qui à l'époque nous disent, eh bien, quand vous êtes malade, dans environ 50% des cas, vous excrétez du virus dans les selles. Et ça, c'est un réflexe qu'on a.
Ça, on le savait depuis longtemps, j'imagine.
Ah, non, bah, le virus, en fait, on l'a découvert fin 2019, début 2020.
Mais sur le fait qu'il y ait des agents pathogènes dans les eaux usées,
alors,
ça on le savait.
Certains agents pathogènes sont présents dans les selles, d'autres pas. Hein. Ouais. On a des bactéries comme Vibrio cholerae, l'agent du choléra, le virus de la poliomyélite, mais tous les agents pathogènes ne se retrouvent pas fatalement dans le tube digestif, dans les eaux usées.
Donc c'est-à-dire que très rapidement, vous avez repéré justement du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, Laurent Moulin ?
Oui, alors en fait, on travaille sur la qualité de l'eau de surface, mais aussi des eaux usées, parce qu'elles sont polluées par les eaux usées depuis très longtemps. Et on avait démontré en 2015 qu'on pouvait suivre les épidémies de gastro-entérite en suivant un des virus principaux mis en évidence dans la gastro-entérite, qui sont les norovirus. Et on avait vu bien qu'on pouvait savoir s'il y avait plus ou moins de gens malades en fonction de la charge de ces virus dans les eaux usées. Et on a appliqué tout bêtement cette recherche de la concentration en SARS-CoV-2, ce qui était le travail, c'était sur la concentration, qui nous a permis de voir l'évolution de la dynamique. On a vu quand ça montait, on a vu l'effet rapidement du lockdown, enfin du confinement, qui s'est traduit par une diminution de la concentration en génome viral dans les eaux usées. Et c'est là que ce réseau s'est monté et qu'on a construit tous ensemble ce suivi. Qui était un peu dans l'air du temps depuis longtemps, mais qui s'est vraiment traduit grâce au SARS-CoV-2.
Donc l'intérêt, c'est de pouvoir suivre la dynamique finalement d'un virus, d'une maladie, et puis d'en anticiper aussi peut-être les effets de masse sur les populations.
Oui, c'est-à-dire que vous avez un dispositif qui est d'abord non-invasif. Hein. On ne demande pas aux gens la permission. D'ailleurs, ça peut peut-être poser des questions éthiques, mais on ne leur demande pas la permission d'aller regarder ce qui se passe dans les eaux usées. Et donc il y a deux types d'informations, une information qualitative, qu'est-ce qu'on trouve comme agent dans les eaux usées, et éventuellement une information quantitative. Alors c'est un signal qui n'est pas facile à quantifier, qui n'est pas facile à analyser. Raison pour laquelle on a des mathématiciens, notamment un mathématicien, il y a un groupe de mathématiciens dirigé par Yvon Madet, qui produit des modèles, des indicateurs qui nous permettent de transformer les quantités qu'on observe dans les stations en données un peu à l'instar d'une échelle de Richter, qui nous permettent d'évaluer l'intensité de circulation dans une station au fil du temps. Et ça, on voit que c'est très très bien corrélé à d'autres paramètres, donc notamment les taux d'incidence auxquels les gens maintenant sont habitués. Et on voit quand on compare surtout les courbes qu'on a quelques jours d'avance en général sur les variations des taux d'incidence.
Et donc comment c'est possible, pardon, d'avoir des jours d'avance alors que c'est dans les eaux usées, donc de fait c'est déjà transité normalement par la population.
Alors c'est une bonne question, excuse-moi Vincent, c'est une bonne question, c'est probablement, il y a plusieurs explications, Vincent a peut-être d'autres, mais c'est probablement parce que les gens ils commencent à déjà émettre du virus et ils n'ont pas encore diagnostiqué, donc on a déjà ce temps d'avance là forcément, puisque le temps de se dire tiens j'ai les symptômes, je vais me faire tester, ils ont déjà peut-être commencé à émettre dans leur selle des eaux usées. Il y a cet effet là, il y a tous les asymptomatiques qui eux vont être malades, vont émettre du virus et ils n'ont aucune raison d'aller se faire tester, enfin à l'époque ils n'avaient aucune raison, et donc on a ce signal là qui augmente un petit peu la puissance des eaux usées, et puis on voit bien que c'est dépendant de l'hydrologie, l'hydrologie du réseau, de tout un tas d'événements qui font que ce temps d'avance, il est plus ou moins grand en fonction des stations.
Oui, c'est ça. En fait, il faut voir que le test de référence aujourd'hui, qui sont ces tests massifs, antigéniques, RT-PCR, c'est de la pêche à la ligne. Hein. Donc en fait, ça dépend de la population que vous testez, ça dépend du moment où vous testez. Et on l'a vu très bien, notamment à l'occasion de la deuxième vague, où on a vu arriver les signaux dans les eaux usées fin juin, alors que les données épidémiologiques basées sur les taux d'incidence sont reparties à la hausse beaucoup plus tard, quasiment un mois après. Donc il y a des explications qui tiennent aussi au fait qu'il n'y a pas un test meilleur qu'un autre. On a essayé d'opposer les deux approches, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de concilier l'ensemble des deux types d'informations pour avoir une photographie épidémiologique à un instant T la plus fidèle possible.
Et la cinquième vague là, que nous vivons en ce moment, vous l'avez anticipée depuis quand alors exactement ?
Fin septembre, début octobre. Hein. Les premiers retournements de tendance, on les a vus à peu près à cette période-là. On avait en fait une situation particulière. Les signaux diminuaient de façon très régulière depuis finalement la fin du mois d'août. Et puis effectivement, fin septembre, début octobre, on a vu quelques-unes des stations se mettre à plat, enfin avoir un signal à plat, puis remonter doucement. Mm-hmm. Et puis de proche en proche, toutes les stations sont devenues positives.
Et le pic, du coup, vous avez une visibilité d'après vos calculs.
Quand est-ce qu'il va arriver ? On aimerait bien, mais non.
On n'y est pas, en tout cas.
Donc ça veut dire qu'on n'y est pas. Alors, bah, si vous ne voyez pas, a priori, c'est
les résultats de cette semaine montrent toujours une augmentation. On n'a pas de ralentissement de l'augmentation. Hein,
les données qui datent de vendredi dernier nous montrent qu'on a, je sais pas, 90% des stations qui continuent à monter, une ou deux qui diminuent, mais de façon un petit peu bizarre. Et puis, on n'est pas dans la projection. Hein. L'objectif des eaux usées, c'est pas de projeter. On n'est pas des modélisateurs.
Oui, mais vous faites de l'anticipation.
En revanche, on voit sur des petites périodes de temps, sur des temps plus courts, effectivement, des changements de tendance. Là, pour l'instant, malheureusement, la tendance est plutôt à la hausse.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui caractérise justement ce qu'on vit là en ce moment? D'après les informations que vous recueillez dans les eaux usées. Alors, s'il fallait faire une photographie de ce lundi, là.
Eh ben, on voit une situation qui était contrastée, mais qui est de plus en plus, je dirais, homogène sur toute la France et que ça monte à peu près partout. Je crois que, comme disait Vincent, on doit être sur du 90% des stations au moins montrent une dynamique à l'augmentation, qu'on voit depuis plusieurs semaines. Donc ça monte, voilà. Et d'un point de vue, je dirais, indicateur ou concentration du virus, on voit qu'on a déjà dépassé un petit peu le sommet de la vague précédente, qui était plutôt, je dirais, réduite, ça soit d'un point de vue incidence ou d'un point de vue concentration. Là, on est déjà sur des niveaux qui sont plus importants que de concentration, hein, que la vague précédente.
Sauf que là, vous travaillez sur 200 stations d'épuration. Ça veut dire que ça représente quel pourcentage de la population réellement?
À peu près 40%. De la population. Alors l'intérêt aussi dans ce dispositif, c'est qu'on analyse la dynamique du virus sur un territoire, c'est-à-dire que sauf erreur, les gens font leurs besoins là où ils se trouvent. Alors qu'il faut quand même savoir que les relevés de type RT-PCR ou test antigénique sont affectés au lieu d'habitation, au lieu de la carte vitale. Alors en règle générale, les deux correspondent assez bien, sauf que par exemple pendant les périodes de congé, l'été en particulier, eh bien les gens qui sont testés sur le lieu de vacances, eh bien le test positif est affecté à leur lieu de résidence. Donc on a un décalage qui parfois est assez important.
Ouais.
Voilà, donc deux outils encore une fois qu'il faut prendre avec précaution. Il y a des biais dans les deux cas.
Et vous travaillez comment, Laurent Moulin, par exemple? Donc vous allez dans une de ces 200 stations d'épuration, vous allez sur site où on vous rapporte des échantillons. Alors, et comment est-ce que vous réussissez tout simplement à repérer le virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées, au milieu des autres?
Alors c'est un long processus. On travaille, il y a beaucoup d'acteurs en fait. On travaille pas. Donc il y a 11 laboratoires qui font les analyses, mais avant d'arriver au laboratoire, il y a tous les exploitants des stations d'épuration qui travaillent avec nous à nous récupérer des échantillons qu'ils vont nous transférer. Alors les exploitants des stations, ça peut être soit les collectivités locales si les stations sont exploitées par les collectivités, soit les groupes industriels français bien connus qui parfois ont l'exploitation et le plus souvent même l'exploitation des stations.
Donc ils prennent de l'eau, ils vous l'envoient, donc ça veut dire que ça reste dans l'eau le virus.
Le virus reste dans l'eau. Ils ne prennent pas un prélèvement comme ça. Ce qu'on a démontré, c'était que pour que ça soit bien représentatif, on a des prélèvements qui durent sur une journée. En fait, il y a un capteur, un appareil, un intégrateur qui pendant 24 heures va prendre des tout petits échantillons d'eau en fonction du débit de l'eau qui arrive pour qu'on ait un prélèvement qui représente une journée entière de la station. On s'est pas fait exprès. En fait, ils ont toutes les stations en France ont ce système-là parce que ça leur permet de vérifier la qualité des eaux qui arrivent et de dimensionner leur traitement, de vérifier si tout se passe bien. Et donc nous, on s'est juste mis en supplément au lieu d'avoir ces analyses qui sont envoyées que dans leur laboratoire. Ils nous envoient un échantillon qui est ramené par transport réfrigéré dans l'une des 11 équipes qui font les analyses. Et à partir de là, on va vérifier, on va regarder la concentration du virus en plusieurs étapes. On va concentrer, on va extraire et on va mesurer par une méthode de RT-PCR quantitative, qui est la même que celle quand vous faites un test nasal. qui est fait. Ce qu'on avait démontré avant, bien sûr, c'est que le virus, il résistait assez longtemps dans l'eau pour ne pas que le transport, ces 24 heures de transport, change ou modifie l'indicateur. Donc on sait qu'on a une certaine stabilité qui est suffisante pour avoir quelque chose de carré.
Allez, les eaux usées, ben justement, ce sera l'occasion aussi d'en reparler avec vous pour savoir comment tout ça fonctionne. Et les virus, c'est le thème de la Terre au carré avec vos questions dès maintenant sur le site de l'émission.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous y sont les merveilles, et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles et mes petites orteils. Je peux pépégayer. Auriez-vous un conseil avec mes grandes oreilles?
Celle de M sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Là, je vais vous présenter notre produit fini. La raison de notre travail et pourquoi on est là, c'est-à-dire une eau propre à la sortie. Une eau qu'on peut renvoyer en Seine sans dégrader le milieu naturel, c'est-à-dire la Seine.
La voix de Christophe Dejoie, directeur de l'usine Seine-Centre SIAP, avec une vidéo qui était publiée en 2018 sur Dailymotion pour parler des eaux usées et de la présence des virus avec vous, Vincent Maréchal et Laurent Moulin du groupement Aubépine. Il y a une question que je voulais vous poser dès le début, d'ailleurs, on appelle tout encore, mais eaux usées et eaux non potables, est-ce que c'est exactement la même chose?
Alors c'est un vocable qui est un peu trompeur. Eau non potable, c'est toutes les eaux qui sont pas potables, donc ça regrouperait un peu des eaux. Je pompe des eaux dans la Seine. À Paris, on a ce qu'on appelle un réseau d'eau non potable qui nous permet de nettoyer les trottoirs, de remplir les lacs d'agrément Boulogne, Vincennes, ou même de chasser les matières fécales dans les égouts. Et ça, c'est un réseau d'eau brute. On pompe de l'eau de la Seine ou du canal de l'Ourcq et on va l'utiliser. Et elle n'est pas potable puisqu'elle n'a pas été potabilisée. Mais c'est pas des eaux usées. En fait, eau non potable, ça regroupe plein de qualités d'eau différentes, dont les eaux usées qui sont des eaux effectivement très très sales.
Voilà. Qu'est-ce que vous traitez alors exactement à Eau de Paris, qui est une institution publique, oui. Il faut le rappeler.
Exactement, c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on produit, on traite et on distribue l'eau potable pour les Parisiens intramuros. Et donc on a deux types de sources. On a des sources d'eau souterraine qui sont situées presque une centaine de kilomètres de Paris, hein, au sud ou à l'ouest de Paris. Et donc ça, c'est 50% un petit peu de nos ressources. Et les autres 50%, c'est la Seine et la Marne qui sont traitées de façon très importante pour produire une eau potable de qualité qui est ensuite ramené sur Paris, stocké dans des réservoirs et distribué aux consommateurs, distribué comme ici à la Maison de la Radio, avec en gros on a un jour de stockage avant distribution.
Donc c'est toute la chaîne en fait, c'est ça, du captage jusqu'à nos robinets. On
exactement.
Pourrait résumer les choses un peu comme ça.
Exactement. Eau de Paris, je te parle de cette partie du cycle de l'eau qui va de l'eau de ses ressources en eau jusqu'à le robinet.
Et vous avez la casquette recherche, c'est ça, dans ces eaux usées. Maintenant, on cherche quoi exactement?
Alors, dans les eaux usées, alors nous, on s'intéresse aux eaux usées parce que, bah, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à la qualité de la Seine et la Marne. Les principaux contributeurs à la pollution de la Seine et de la Marne pourraient être les eaux usées. Donc, on a travaillé très souvent avec nos collègues du CIAPL, hein, qu'on vient d'entendre, pour essayer de regarder un petit peu, eh bien, qu'est-ce qu'on avait dans ces eaux usées qui, nous font qu'on a des traitements dimensionnés pour éliminer, eh bien, c'est les micro-organismes qui peuvent se retrouver dans la Seine ou la Marne. Donc, on a souvent travaillé avec eux, d'où le fait qu'on avait des outils de travail sur les eaux usées développés, qui nous ont permis d'être assez rapidement, qu'on a pu rapidement appliquer ce suivi du SARS-CoV-2.
Ouais. Donc risque chimique, risque microbiologique, hein, principalement.
Tout à fait. On a deux thématiques. C'est la chimie. Donc quelles sont, j'aime pas ce terme, mais c'est quelles sont les molécules qu'on va continuer à chercher, les résidus d'hydrocarbures, les résidus de pesticides, les résidus de médicaments, et puis le risque microbiologique, qui est un risque le plus immédiat, virus, parasites et autres.
Vincent Maréchal, juste une petite question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le virus, le SARS-CoV-2, reste dans l'eau. On rappelle, il est transmissible ou pas par l'eau? Non.
Alors, aujourd'hui, il y a très très peu, si vous voulez, le cycle du virus, il faut voir ce qui se passe. Hein. Celui qui nous intéresse, en tout cas, s'accumule dans les selles. Là, on a montré que les selles constituent un environnement très hostile à l'infectiosité du virus. C'est assez difficile de récupérer du virus infectieux à partir des selles. Et on a pu montrer également que lors de son voyage dans les égouts et jusqu'aux stations, eh bien, cette infectiosité ne fait que baisser. Et lorsque le virus est lui-même rejeté dans les eaux de surface, eh bien, il est dilué. Ça, c'est un facteur qui joue aussi. Et on a même des équipes, donc à Nantes, à l'Ifremer de Nantes, qui vont surveiller éventuellement la capacité de ce virus à s'accumuler dans des mollusques de consommation, et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun risque avéré sur dans cette partie-là du cycle.
C'était une question qu'on posait beaucoup au tout début de l'épidémie l'année dernière et qui impressionnait beaucoup les gens, évidemment, parce qu'il y avait la question de l'eau du robinet aussi, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un virus qui est plutôt assez, on va dire quoi, fragile en tout cas dans un environnement extérieur.
Oui, alors en fait, Vincent vous expliquera ça tout à l'heure peut-être. Il y a deux types de virus. Il y a les virus enveloppés et les virus nus qui ont une enveloppe un peu différente. Et ce qui était couramment admis dans le monde de l'eau, c'est que les virus à transmission aérienne sont souvent des virus nus parce qu'ils sont plus résistants dans l'environnement, ils se dégradent pas et donc ils restent infectieux et capables d'infecter leur hôte même après transport et même après un temps très long dans l'environnement. C'est le cas, comme je vous le disais, des neurovirus qui, au bout d'une vingtaine de jours, sont toujours capables d'infecter des gens. Pour les virus enveloppés, type coronavirus, eh bien, c'est beaucoup plus rapide leur dégradation.
Alors, on a justement Sébastien qui nous écrit un mail. Je suis salarié, nous dit-il, d'une petite commune où je gère la station d'épuration. Est-ce que je cours un risque accru face au virus sur mon lieu de travail?
Non, a priori, c'est difficile à dire comme ça, mais ce qu'on a pu montrer aujourd'hui, c'est que la présence du virus infectieux dans les stations d'épuration, personne ne l'a mise en évidence. Hein. Donc on sait, faut bien dissocier deux choses, c'est-à-dire que ce qu'on suit, nous, c'est le génome viral, c'est-à-dire une partie seulement de la particule virale, qui, par chance pour nous, en fait, est remarquablement stable. C'est pour ça qu'on arrive à la suivre aussi longtemps. En revanche, pour que la particule soit infectieuse, il faut que cette information génétique soit emballée dans une boîte faite de protéines et que le tout soit recouvert d'une enveloppe qui, elle, est très fragile. Si le virus perd son enveloppe, ce qui est le cas notamment avec des savons, avec la chaleur ou même avec probablement les selles biliaires, eh bien le virus perd son infectiosité.
Combien on consomme d'eau par jour, tiens, à Paris et en région d'ailleurs? Est-ce qu'on peut faire le comparatif Moulin?
c'est une question très bonne, mais en même temps difficile. On pourrait avoir des réponses un petit peu différentes en fonction de qui on la pose.
En gros,
on va dire qu'à Paris, on est sur une 110 à 120 litres d'eau potable par jour et par
habitant.
Exactement.
Ouais. Donc 100 litres.
C'est ça. Environ une centaine de litres. C'est un petit peu plus élevé sur le reste quand on prend la moyenne française, puisque à Paris, les gens, par définition, ont peu de jardin ou pas de jardin, peu de voitures, puisque je crois que moins d'un habitant sur deux a une voiture, donc il n'y a pas sa voiture, et puis on a peu d'industrie qui consomme beaucoup d'eau, donc on a une consommation d'eau potable par habitant qui est plus basse que d'autres territoires.
C'est français. Beaucoup quand même, une centaine ou 120 litres par jour et par personne.
Si on réunit tous les Parisiens, oui, ça fait quoi
Quand on sait, ou tous les Français, même si on extrapole un petit peu, quand on sait comme c'est précieux l'eau, d'autant plus aujourd'hui, c'est énorme.
Alors... Alors, plus de répondre. Déjà, pour répondre, à Paris, c'est 500 000 mètres cubes d'eau, en gros, par jour, un petit peu moins en ce moment, mais en gros, c'est 500 000 mètres cubes d'eau par jour. Est-ce que c'est beaucoup sans litre? Ben non, vous prenez votre douche, vous lavez votre linge, vous lavez votre salade et vos légumes, vous buvez de l'eau qui représente une part faible, c'est 2 litres, hein, sur ces 100 litres, c'est 2 litres d'eau de boisson, vous tirez votre chasse d'eau, et donc toutes ces usages,
sauf que par rapport à des gens qui n'ont pas du tout accès à l'eau, on se dit 100 litres d'eau par jour et par personne,
potable,
ça paraît impressionnant
choquer,
quand même.
Par exemple, se laver à l'eau potable dans certains pays, ça peut choquer. Arroser son jardin à l'eau potable, ça peut choquer. Alors, on peut arroser avec de l'eau.
Mais alors c'est un vrai débat, hein, parce que je suis aussi dans des groupes d'experts au niveau national. Est-ce qu'on doit utiliser de l'eau potable pour tous ces usages? La difficulté, c'est que c'est compliqué de faire plusieurs réseaux, qu'il était démontré que si vous lavez avec de l'eau de mauvaise qualité, vous avez des gouttelettes qui peuvent rentrer dans le nez, et il y a des gens qui se retrouvent infectés. C'est ce qui se passe, hein, quand il y a des infections chez les personnes âgées légionnelles, c'est parce que leur douche était mal entretenue, ou ils étaient sur un réseau de mauvaise qualité, et donc ils avaient des micro-organismes dans ces gouttelettes d'eau qui rentrent dans les voies nasopharyngées, qui rentrent dans les poumons, qui se développent et qui rendent, pour certains types de populations, les gens très malades.
On ne peut pas séparer, évidemment, du coup, le réseau douche du réseau toilette, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont choqués qu'on utilise de l'eau potable pour tirer la chasse.
Eh bien, c'est une bonne question, mais est-ce que l'énergie qu'on mettrait à fabriquer un deuxième réseau, il faut savoir qu'il y a quasiment 2000 km de réseau à Paris, est-ce que fabriquer un deuxième réseau de 2000 km, est-ce qu'on gagnerait en faisant ça, serait un avantage? Tous ces calculs doivent être faits pour y arriver, et globalement, pour l'instant, on a tendance à dire que une qualité potable pour tous ces usages et ce qu'il y a de mieux, ce qu'on a pu faire.
Vincent Maréchal, juste parce qu'on y reviendra évidemment tout à l'heure, mais avant le SARS-CoV-2, donc le Covid, quel type de virus est-ce qu'on étudiait d'assez près dans les eaux usées?
Alors en fait, on étudiait les micro-organismes dans les eaux usées depuis très longtemps. Il y a certains pathogènes, notamment Vibrio cholerae, qui est l'agent du choléra, qu'on a beaucoup suivi dans les eaux usées, notamment quand vous savez qu'il y a un tremblement de terre quelque part, on l'a vu à Haïti. Les eaux usées sont fréquemment un endroit où vont se détecter très rapidement ce type de germes. Le virus de la poliomyélite également est suivi dans les eaux usées, notamment dans le cadre du plan d'éradication de la poliomyélite. On sait que c'est un virus en fait qu'on va aussi contracter parce qu'on a les mains sales, on boit de l'eau qui est insuffisamment potabilisée. Ce virus va se multiplier dans le tube digestif, on va donc le retrouver dans les eaux usées, et on peut donc suivre à travers les eaux usées l'apparition ou la circulation du virus de la poliomyélite.
Ouais. Est-ce que parfois on peut voir des virus extrêmement létaux, je pense par exemple à Ebola, mais dans nos eaux usées à nous, est-ce que ça arrive qu'il y ait des traces ou pas?
Alors, chez nous, je ne pense pas, mais on travaille avec des collègues en Guinée, notamment l'Institut Pasteur de Guinée, qui est un des pays très exposés aux fièvres hémorragiques de type Ebola. Et dans le cas d'Ebola, on sait que l'ensemble des excrétions liquides peuvent contenir du virus. Et donc, une de leurs problématiques, c'est éventuellement de travailler avec nous pour trouver un système qui permettrait justement d'identifier des émergences avec d'autres types de virus dans les eaux usées.
Et d'anticiper, évidemment, les règles sanitaires. On se retrouve dans un instant. D'autres questions pour vous sur le site de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, quasiment 32, Camille Passauvert, Camille Cronier.
Et je reviens sur l'un des événements qui a enflammé les réseaux sociaux ce week-end, sachant que non, ce n'est pas la baston chez Zemmour, ni la victoire de Pécresse, mais la mort de Pierre Rabhi, l'écrivain présenté dans tous les articles et sujets comme le pionnier de l'agroécologie, est décédé samedi à l'âge de 83 ans. Une pluie d'hommages a suivi, rattrapée très rapidement par des critiques nombreuses elles aussi. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. Pierre Rabhi, il était d'abord ultra admiré par beaucoup et encensé dans les médias, au hasard.
France Inter.
Bienvenue en Ardèche.
Matinale spéciale.
Le 7-9 de France Inter.
En direct de Montchamp.
En vadrouille.
La vadrouille du 7-9 se poursuit dans ce coin de la Cévenne ardéchoise qui a été façonnée par un homme exceptionnel, Pierre Rabhi. C'est lui qui nous accueille ce matin dans sa ferme de Montchamp.
Un homme exceptionnel, disait Patrick Cohen en 2014. Autre exemple.
Une figure emblématique. Paysan, penseur, écrivain, philosophe et poète. De nombreuses personnalités du monde de l'écologie, du spectacle, voient en lui un mentor, un sage.
Vocabulaire dithyrambique, hein, choisi aussi par Laurent Delahousse sur France 2 pour ce portrait consacré en 2017 à l'homme qui avait fondé 10 ans plus tôt avec Cyril Dion le mouvement des Colibris et qui adorait raconter partout l'histoire à l'origine de la philosophie du mouvement.
C'est une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Le colibri, lui, va prendre quelques gouttes d'eau sur son bec et vient les jeter sur le feu. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit « Mais colibri, c'est quand même pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. » Et le colibri se tourne vers eux et lui dit « Oui, je sais, mais je fais ma part ».
Voilà, le même récit à chaque fois qu'on a beaucoup vu ce week-end, comme les références au plus gros succès de sa vingtaine de livres publiés chez Actes Sud en 2010, vers la sobriété heureuse.
C'est-à-dire la sobriété comme facteur de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'elle est libératrice. Si je suis pris dans le toujours plus, je suis jamais satisfait, j'ai ça, mais il me faut ça, j'ai telle bagnole, il me faut encore... Mais à quel moment est-ce que je vais être satisfait ?
Autrement dit, stopper la croissance infinie, même les baleines cessent de grandir à un moment, disait Pierre Rabhi, promoteur de l'insurrection des consciences, qui vivait depuis les années 60 dans une ferme en Ardèche, où il développa la culture de la terre sans pesticides ni engrais chimiques.
Ah voilà, je suis content. Je suis content parce que là, j'ai reproduit de l'humus, j'ai fabriqué de l'humus. Et c'est ça qui va régénérer la terre, c'est ça qui va lui donner la vie.
Ne pas détruire la Terre pour que nous survivions, c'est l'idée que celui qu'on surnomme parfois le gourou de la Terre, hein, le magazine Vanity Fair parlait même en 2015 de prophète, va transmettre à travers ses livres, associations, fondations et conférences. Le système Pierre Rabhi, titré en 2018 « Le monde diplomatique », une enquête relayée, rappelée ce week-end par des scientifiques comme Valérie Masson-Delmotte, par exemple, venant écorcher l'image du paysan en perpétuelle bretelle, signée par le journaliste, l'enquête, le journaliste Jean-Baptiste Mallet, qui s'en expliquait à la télé.
En agronomie, en fait, la pensée de Pierre Rabhi est très limitée, et moi qui ai lu énormément de Pierre Rabhi durant cette enquête, je me suis aperçu que la plupart de ses livres relèvent plutôt du livre de morale ou de spiritualité que de livres sur l'agriculture à proprement parler. Et donc oui, il est vrai que dans ses formations, on apprend des bases peut-être pour le maraîchage, mais ça reste très rudimentaire, et je pense que c'est une erreur de considérer que Pierre Rabhi est un expert des questions agricoles.
Le journaliste soulève aussi ses liens avec de nombreux hommes d'affaires et patrons qu'il fustigeait par ailleurs, ou le business que représente ce système.
Ce n'est pas en fait l'humble paysan qu'il prétend, c'est un auteur à succès, donc c'est un cadre de l'industrie culturelle.
Avec 500 000 euros de droits d'auteur en 10 ans, des conférences rémunérées 1 200 euros en moyenne, un salaire de 7 à 10 000 euros par mois.
Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est un auteur qui a réussi, pourquoi pas. Mais quand on regarde le discours de Rabhi, de sobriété, d'exemplarité, et ce qu'il fait de cet argent, eh bien on s'aperçoit qu'il ne reverse pas aux associations rabbistes.
Et les attaques ne s'arrêtent pas là. Réac, homophobe, misogyne, c'est ressorti aussi après sa mort pour dénoncer différents propos. Il y a 3 ans contre l'exaltation, je cite, de l'égalité homme-femme, mais aussi en 2013 en comparant la PMA à l'agriculture chimique, ou la même année dans un livre où il se positionnait contre le mariage pour tous, en déclarant, Mathieu, que...
La validation de la famille homosexuelle est dangereuse pour l'avenir de l'humanité, car par définition inféconde.
Alors il n'a pas répondu spécifiquement à tout cela, mais il avait réagi en septembre 2018 à l'enquête du Monde diplomatique sur France Culture.
Il a fait du puzzle, il a rassemblé quelques données par-ci par-là, et toujours à charge, à charge, à charge. Alors, psychanalytiquement, je pourrais dire qu'il était en quête de sa propre valorisation, et que s'attaquer à une personne qui est reconnue, peut-être c'était plus commode d'arriver à ses fins. Peut-être aussi que l'aspect spiritualité l'agace et que, voilà, moi je reste droit dans mes bottes, comme on dit.
Et quoi qu'on pense de Pierre Rabhi, il reste aussi un personnage public, une figure de la défense de la planète et d'un questionnement de nos modes de vie frénétiques qui ne sera certainement pas oublié.
Voilà, avec beaucoup de témoignages, d'hommages tout au long du week-end et encore sur le répondeur de la Terre au Carré. Vous pouvez bien sûr réécouter les émissions qui ont été diffusées tout au long de cette fin de semaine sur notre antenne. Pierre Rabhi, Vincent Maréchal et Laurent Moulin, ça vous inspire quoi, vous, comme ça, scientifique ?
Un besoin de retour à un monde plus simple, à un monde peut-être dans lequel les choses vont plus lentement, mais j'entends bien qu'effectivement, sur les composantes plus techniques, il y avait certaines fragilités, toute évidence.
Laurent Moulin, oui, je vous ai vu acquiescer, notamment quand on entendait le journaliste qui a fait l'enquête du Monde diplomatique parler de la morale, plus de morale et de spiritualité que d'agronomie.
Ouais, enfin, là, je vous parle d'un point de vue très personnel, mais je pense qu'effectivement, il y avait sûrement quelque chose de tout à fait entendable dans son discours, mais il y avait quand même des parts sombres et un peu obscures dans ce qu'il pouvait faire. Enfin, il y avait, je crois qu'il y a une enquête assez intéressante à voir sur des gens qui ont visité sa ferme, et c'est vrai qu'il travaillait quand même beaucoup avec des stagiaires. Enfin, bref, il y avait tout un tas de choses qui amènent une part plus complexe, mais tout le monde est complexe, donc finalement, il était comme tout le monde, mais voilà. Je trouve que c'était bien. Votre présentation était assez équilibrée en présentant les deux facettes du personnage.
Allez, on revient bien sûr tout dans un instant aux eaux usées et aux virus. Thème de la Terre au Carré.
You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. And you live for the lies. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
Et la voix de Célassou sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
À Marseille, les nouvelles venant des égouts ne sont pas bonnes. L'analyse des eaux usées révèle une forte concentration du Covid-19, ce qui fait craindre l'arrivée d'une troisième vague.
On est capable d'estimer quelle est la quantité de charge virale qu'il y a dans les eaux usées. Sur les 37 points, on va dire qu'on est passé en une semaine à quasiment 37 points verts à plus que 5 points verts. Donc forcément, on est en courbe montante.
La cité phocéenne a été l'une des premières villes à utiliser cette méthode qui anticipe l'évolution du virus.
Donc à partir de là, on arrive à savoir 4 jours à l'avance quand on va avoir la présence de quelqu'un qui est porteur du virus.
Aujourd'hui, d'autres régions s'y intéressent. Dans le nord, à Denain, la station d'épuration est un excellent indicateur pour tracer le Covid-19.
Pour cette courbe en rouge, c'est la concentration en ARN de Covid et là en vert le nombre de cas positifs de personnes testées au Covid. Donc on voit qu'on a 7 jours d'avance par rapport au test PCR classique.
Voilà, c'était sur France Info TV en janvier dernier avec maître principal Eric et Renaud Camus, directeur régional des opérations Suez. Marseille, donc, qui aurait été l'une des toutes premières villes, précisément Vincent Maréchal, à utiliser au fond les eaux usées comme indicateur de l'évolution du virus.
Alors en fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a d'abord, il faut comprendre qu'il y a plusieurs stratégies de recherche du virus dans les eaux usées. L'approche qu'on a choisie nous, qui est une approche en station d'épuration, donc qui permet d'avoir une moyenne de ce qui se passe sur un territoire. Alors ceci dit, petite station égale petit territoire, on a des choses très réactives. Et puis puis quand on est comme dans une grosse station comme en Île-de-France, ben on a quelque chose d'un peu plus large, et une analyse des égouts. Donc là, l'idée, c'est de partir de la station, puis de remonter effectivement dans les collecteurs. Alors, Laurent Moulin pourra le dire, en fait, la ville de Paris et Aubépine travaillent depuis le mai 2020, en fait, hein, sur cette approche-là, qu'on n'a pas rendue forcément publique. Alors, ce ne sont pas deux approches qu'il faut essayer d'opposer. Hein. Je crois que nos amis marins-pompiers ont commencé vers le mois d'août, je crois, 2020, donc après qu'on ait lancé le sujet. Mais ces deux approches qui sont assez complémentaires, et on a pu nous faire des études comparatives, notamment en Île-de-France, hein, où on compare les égouts et les stations d'épuration. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que quand le virus circule beaucoup, bah, il n'y a pas tellement d'intérêt à chercher les égouts parce qu'on en trouve partout.
Ouais.
En revanche, quand on est au début d'une reprise épidémique, donc quand la station commence à vous dire il se passe quelque chose, là, c'est intéressant d'essayer de remonter pour essayer d'identifier qui, un quartier, un cluster, un bâtiment dans lequel le virus circule. Donc, c'est deux approches qu'il ne faut surtout pas opposer, qu'il faut essayer de concilier pour partir d'un système macro à un système beaucoup plus local.
Et il n'y a pas que les Parisiens qui étaient sur le coup, donc dès le début. C'était aussi une façon de souligner ce qui se passait ailleurs. Camille.
Deux questions. D'abord, Eric qui demande pourquoi il essaye de trouver les données sur lesquelles vous travaillez et que vous produisez. Il n'arrive pas à les récupérer. Il demande pourquoi ces chiffres ne sont-ils pas disponibles. Et j'ajoute une deuxième question de Pascal qui demande pourquoi le réseau Aubépine n'est pas étendu à tous les départements, finalement, donc à toutes les stations d'épuration.
Alors, on pourra répondre tous les deux. Alors, d'abord, on peut peut-être répondre à la première partie de la question. Il y a 22 000 stations d'épuration en France. Il y a un certain coût quand même à les suivre. Et donc, le choix qui a été fait par Aubépine, c'est de faire travailler un groupe de mathématiciens et de statisticiens pour isoler sur une trentaine de critères une centaine, 200 stations sur les 22 000 stations françaises.
Mais ça fait 40% de la population, donc c'est pas la majorité.
On est sur à peu près 40% de la population. On pourrait faire plus. Après, il y a un budget derrière à engager, et ça, l'État doit pouvoir fournir. Alors, sur la deuxième partie de la question...
C'est pourquoi les données ne sont pas publiques.
Tu veux répondre?
Oui, tu compléteras l'idée. On essaye, en fait, dès le début, et Vincent a vraiment beaucoup travaillé là-dessus avec Yvon Madet, on essaie de mettre les données à disposition du public. De deux façons. La première, c'est sur notre site internet qui est Réseau Aubépine tiret-aubépine.fr où normalement il y a les données qui sont disponibles. On a un petit souci parfois de mise à jour
d'actualisation,
mais qui prend mon lien, un problème technique si je dis pas de bêtises. Et elles sont aussi téléchargeables sur le site data.gouv.fr où les données, enfin l'indicateur Aubépine est téléchargeable si les gens veulent refaire leur propre courbe ou leur propre analyse si ça leur chante. Après je sais pas exactement comment
Deux types, je pense qu'il y a peut-être deux types de données que les gens sont intéressés de chercher. Il y a les données qu'on appelle les données brutes, donc ça c'est la quantité de virus par litre d'eau dans les stations. Mmh. Et ça, on a des accords de confidentialité. Les collectivités avec lesquelles on travaille, dès le début, hein, nous ont dit, on veut bien travailler avec vous, sous couvert de ne diffuser ces informations-là que dans un délai avec un embargo, etc. Tout simplement parce qu'au début, on a tendance à l'oublier ici. Mais quand on a commencé à solliciter des collectivités pour faire le suivi, certaines nous ont dit, vous êtes gentils, mais si vous dites qu'il y a du virus chez moi, les gens iront en vacances à côté. Donc il y a eu au début un petit temps de calage. Il y a une deuxième chose, c'est que les données brutes, effectivement, sont des données qui ont une information, mais il faut faire attention, une concentration de virus par litre d'eau, ça ne vous met pas à l'abri d'un facteur de dilution parce qu'il y aurait une pluie, un incident d'exploitation, etc. Donc l'indicateur mathématique que l'on a créé va agréger l'ensemble des données qu'on peut récupérer, donc la concentration qui est cette donnée brute, plus des données de débimétrie, de météorologie, pour former un indicateur sans unité. C'est cet indicateur qu'on envoie de façon régulière.
Mais alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a certaines collectivités, alors on peut comprendre, mais il y a un moment, c'est des informations que le public doit avoir. Est-ce que vous avez le droit de faire de la rétention d'informations?
C'est pas
parce
de la rétention.
Qu'en gros, ils veulent comment dire, protéger leur économie.
Il n'y a pas de rétention d'informations, si vous voulez. La donnée, chaque donnée, chaque station est suivie deux fois par semaine. Donc, on produit dans les 200 stations deux jeux de données chaque semaine. Ces données-là sont ensuite modélisées. Et cette donnée modélisée est transmise au gouvernement. Et trois jours après, est mise à disposition des collectivités. Donc, les collectivités, les agences régionales de santé, ont les informations quasiment en temps réel ou avec un embargo minimum.
Et quelqu'un qui est totalement néophyte, comment il interprète justement ces données s'il va sur le site d'Aubépine, par exemple? Qu'est-ce que ça lui dit, au fond, de la présence du virus dans les eaux usées?
Il va voir la courbe, mais il va regarder si la courbe elle est plutôt. Il y a plusieurs choses à regarder, mais qu'on essaye de faire. On a une sorte de carte météo, je dirais, en première page, qui vous donne une vision globale de la France ou de chaque région. Et vous allez avoir plusieurs choses. Est-ce que la charge elle est élevée ou forte? Est-ce qu'on est actuellement dans une qui ressemble beaucoup à l'indicateur épidémiologique? Est-ce qu'on est dans une forte circulation du virus ou une faible circulation du virus? Et puis il y a une deuxième information qui est la tendance. Est-ce que même si on est très fort, on est en train de descendre, et donc ça veut dire que les choses se calment, ou est-ce qu'on est très faible et ça monte aussi, et donc ce qui veut dire que demain ça ira mal? Donc voilà, on a ces deux informations là. Peut tirer des comptes.
Vincent Marchal, qui finance? C'est le ministère de la Santé, en l'occurrence Aubépine ou pas?
Alors, dans la première année, c'est le ministère de la Recherche qui nous a soutenus, tout simplement parce que le but de la recherche, c'est de répondre à des questions. La question était simple: est-ce qu'en regardant les stations d'épuration, on a quelque chose qui colle avec les données épidémiologiques?
Maintenant,
donc pendant un an, Voilà, on a une dotation de 3 millions et demi par le ministère de la Recherche. Et puis, arrivé à cet été, cette dotation, pour la partie suivie, s'est arrêtée. Et donc, on a dit, écoutez, voilà, il faut trouver des solutions. Alors, le ministère, faut savoir que le ministère de la Santé, notamment, souhaite mettre en place un réseau national institutionnalisé qui va s'appeler SUMO, qui est en cours de construction. Et donc, on a proposé de continuer de fournir des analyses. Et donc, depuis le mois de juillet dernier, c'est le ministère de la Santé qui finance le suivi des analyses. Mais encore une fois, Obépine est un réseau de chercheurs. L'activité là est une activité de réseau sentinelle. Donc progressivement, il faut que la bascule se fasse du monde de la recherche vers le monde de la surveillance.
Et pourquoi ça ne fait pas encore l'unanimité alors ce réseau précisément? Puisque vous disiez il y a encore quelques jours que le dispositif n'est pas encore véritablement pris en compte par les autorités, donc par le sommet de l'État. C'est pourtant le ministère qui vous finance.
Alors je ne sais pas s'il n'est pas pris au sérieux. Je pense qu'il y a une difficulté, notamment de la part d'une certaine partie du monde de l'épidémiologie, qui tend à considérer que les données individuelles sont forcément plus fiables que des données méta, telles qu'on peut les générer au niveau d'une station d'épuration. Mmh. Donc c'est à nous de faire cet effort de conviction, mais en tant que scientifique, on est habitué à discuter et à critiquer les données pour dire aux gens, écoutez, n'opposez pas les deux dispositifs, essayons de trouver un chemin médian qui permet de tirer un bénéfice de l'opération. Ouais. On peut quand même juste rappeler que suivre les stations d'épuration, c'est 80 000 euros par semaine pour 40% de la population française. Le coût des tests individuels, quand vous avez 3 millions de tests, vous êtes quasiment à 100 millions d'euros pour créer des courbes qui se ressemblent beaucoup dans la même période. Donc il y a un rapport bénéfice-coût qui est sans comparaison avec les
autres. Vous avez un peu adouci quand même votre analyse, si je puis me permettre, hein, parce qu'il y a un mois, c'est pas tout à fait ce que vous disiez dans la presse. Hein. Vous étiez plus ferme sur la déception qui était la vôtre quand même.
La déception, si vous voulez, l'inquiétude que nous avons, c'est de savoir à partir de quand ce travail de recherche va pouvoir passer dans les rouages de l'État. Et ça, on attend toujours.
Si je peux même ajouter, il y a les travaux de les différents travaux, hein, les nôtres comme ceux d'autres collègues européens ont été, je dirais, suffisamment entendus, puisque l'Union européenne a recommandé en mars de cette année que tous les États membres mettent en place un réseau de surveillance des eaux usées permettant de suivre les épidémies, notamment celle du SARS-CoV-2. Et c'est à cette demande-là que le gouvernement répond en créant SUMO. Oui, nos discours a peut-être un peu changé, mais je ne crois pas. L'idée, c'était juste que nous, on s'inquiète de du temps de passage de relais, voilà.
Allez, d'autres questions, Camille.
Pierre Parmail demande si le fait que les gens soient majoritairement vaccinés brouille vos analyses. Ah, oui. Et moi, j'ajoute une question de Camille de Paris. Est-ce que le SARS-CoV-2, c'est le virus que vous trouvez le plus dans les eaux usées aujourd'hui?
Alors, pour la vaccination, d'abord. Je laisserai répondre au virus, puisque tu as regardé d'autres virus.
Ouais, alors, ça a mis le bazar un peu ou pas dans vos analyses?
Alors, c'est une grande inquiétude, en fait. Hein. Le fait est qu'a priori, aujourd'hui, on le voit sur cette fameuse cinquième vague, on a été en avance, on voit très très bien les évolutions, dans une population qui est quand même largement vaccinée. Donc, on est en train de mettre en forme ces données-là, on va les soumettre à publication, puisque c'est aussi notre façon de travailler. Mais aujourd'hui, pour ce qu'on en sait, la vaccination telle qu'elle est préconisée n'a pas joué de rôle majeur, en tout cas dans la réduction du signal. Maintenant, évidemment, la vaccination joue un rôle dans l'abaissement de la circulation, mais la grande question qui se posait, c'est est-ce qu'on est moins prédictif que les taux d'incidence? Ouais. Voilà, ça paraît d'être le cas. Après, sur les différents virus, Laurent, l'expert.
Non, c'est une excellente question. Alors, je pense que la réponse est très complexe parce que il y a des dizaines et des dizaines de virus différents qu'on pourrait rechercher, et on les cherche pas tous. Sur ceux qu'on cherche de façon normale, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, c'est le norovirus qui est responsable de gastroentérite, rotavirus, c'est les gastroentérites chez les enfants principalement. On est sur des charges virales, c'est-à-dire des concentrations en virus, un peu plus faibles que ce qu'on trouve actuellement en norovirus, de l'ordre de 10 fois moins. Sur les périodes épidémiques, sur la période d'épidémie quand on est au sommet des pics, quand on est en bas des pics, ben on en trouve un peu moins de SARS-CoV-2 qu'on trouve de virus.
Mais le majoritaire actuellement, c'est lequel? Vient un qui se détache ou pas?
Alors cette semaine-là, aujourd'hui, puisqu'on est de l'ordre de 100 000, on doit être à des niveaux SARS-CoV-2 qui sont supérieurs aux virus que l'on suit. Voilà, je ne sais pas s'il y a des virus qui sont peut-être plus importants.
Et la grippe, est-ce qu'on peut le déceler ou pas dans les eaux?
C'est un sujet qui nous tient à cœur. En fait, l'avenir du réseau Obépine aussi, c'est de développer ça pour d'autres types de pathogènes, notamment d'autres types de virus. Donc on peut effectivement, on sait déjà que le virus de la grippe est un virus qu'on peut trouver dans les selles, donc on part du même raisonnement, on doit pouvoir le trouver dans les eaux usées, on doit pouvoir le quantifier, donc ça c'est un des projets qu'on veut lancer.
On doit pouvoir, donc pour l'instant il n'y a pas de travail
là-dessus.
Que,
voilà, parce qu'il faut développer les outils et puis il faut prouver grandeur nature que ça marche. Ouais.
Ce serait intéressant par rapport même à la prédominance du SARS-CoV-2, voir un peu comment le virus de la grippe a existé en tout cas dans les eaux usées. Hein.
Tout à fait.
Il y a des petites questions techniques. Sébastien nous demande par exemple pourquoi ne pas directement faire des tests urinaires. Enfin, on a plusieurs personnes qui nous demandent ça. Vous parlez des selles, est-ce qu'on peut faut déjà faire un petit point technique. Le virus, il est dans les selles, mais pas dans l'urine. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de tests urinaires.
Alors, ce virus-là, effectivement, n'est détecté que de façon très occasionnelle dans les urines. Par contre, son site, un des sites de privilégiés de réplication, c'est à l'air d'être le tube digestif, où là, les quantités de virus sont tout à fait remarquables. Ouais.
Et analyser les selles, ça serait trop de logistique.
C'est plus facile de tester le nez ou voir un. Il y a déjà des débats sur le crachat que d'essayer de faire des couvillonnages rectaux des patients. Je suis pas sûr que ça ait été.
C'est peut-être un peu moins populaire. Excusez-moi, application voilà. France Inter.
Non, mais c'est une bonne question.
Non, mais c'est une vraie question qu'on se pose depuis très longtemps.
Je crois que certains scientifiques chinois avaient proposé de mettre ça en application, mais je ne sais pas ce que ça en est devenu, mais j'en ai pas entendu parler depuis.
Il n'y a aucun tabou dans la Terre au carré. Toutes les questions vous sont posées. On se retrouve dans un instant, juste après France Gall. Laisse tomber les filles.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi. Je dirai ça t'apprendra. Je dirai ça t'apprendra.
Souvenir des années 60, si je ne m'abuse, avec France Gall sur France Inter. Vincent Maréchal, Laurent Moulin, encore quelques minutes avec nous pour parler des eaux usées et de la détection de virus. Et Camille, il y a encore plein de questions des auditeurs.
Oui, une question sur l'application France Inter qui n'est pas signée, mais que je vous pose. Des virologues espagnols réputés ont retrouvé des traces de SARS-CoV-2 dans les eaux usées de Barcelone en mars 2019. A-t-on une explication ? Laurent Moulin.
Alors oui, c'est un scientifique qu'on connaît bien, Monsieur Bosch, à Barcelone. Alors effectivement, il a publié qu'il avait dans un échantillon de sa collection de d'eau usée, il disait avoir des traces de signal en mars 2019. C'est quelque chose qu'il a mis dans un article en pré-publication, un pré-print, hein, comme on dit, mais qui, à ma connaissance, n'a jamais été publié définitivement. Et puis on n'en a pas trop entendu parler, donc je d'un point de vue personnel, je soupçonne l'erreur d'étiquetage ou la contamination.
Est-ce que finalement l'épidémie aurait déjà pu circuler, parce que le patient zéro, on le recherche toujours aujourd'hui, donc
c'est pas impossible, hein, mais comme il n'a pas fait beaucoup de bruit avec, j'aurais tendance à dire qu'il était moins sûr.
Vincent Maréchal.
Oui, c'est ça. On est vraiment sur l'utilisation d'une ressource, et la question qui peut se poser aussi, et ça rejoint cette question-là, c'est est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de faire des collections d'eau usée dès maintenant pour suivre dans l'avenir, pour être en mesure de dater l'arrivée de pathogènes sur les territoires. Alors on a proposé nous de créer ce qu'on appelle une aquathèque, c'est-à-dire de prendre l'habitude de stocker des petits volumes d'eau usée de façon durable. Pour le jour, on a une nouvelle émergence, dire, écoutez, on va ressortir tout ça de nos congélateurs et revérifier la date d'émergence. Quand on a essayé de le faire, Laurent s'en souvient, en mars dernier, impossible en France de trouver des échantillons antérieurs parce que les laboratoires d'analyse jettent au fur et à mesure, on conserve pas.
Est-ce que c'est franco-français, finalement, cette façon de faire, là, ce dispositif sur la dynamique d'un virus dans les eaux usées, Laurent Moulin, ou est-ce qu'on le pratique ailleurs?
Ah, non, alors en fait, nos collègues hollandais, pareil, hein, Gerjan Medema, qu'on côtoie depuis très longtemps dans les congrès et qui s'est intéressé très vite au sujet, à travailler là-dessus. Les Hollandais ont vraiment fait un travail remarquable sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'équipes de recherche, j'insiste, qui sont mis à analyser les eaux usées et à rechercher. Ouais. Donc on est vraiment pas tout seul. Il y a une explosion de la wastewater-based épidémiologie, donc de l'épidémiologie basée sur les eaux usées qui est arrivée ces derniers.
Et Vincent Maréchal, sur les variants, est-ce qu'on arrive aussi à les repérer très vite dans les eaux usées?
Tout à fait. Alors c'est des choses qu'on a lancées. Vous savez, le premier variant qui nous a vraiment posé question, c'est le variant britannique. Et donc quand on a appris que le variant britannique, qu'on appelle le variant alpha, rentrait sur le territoire national, très vite on a activé les équipes pour qu'elles développent des tests. Donc l'équipe de Paris notamment a développé des tests moléculaires pour rechercher certaines mutations spécifiques caractéristiques des variants. Donc un travail qui vient d'être publié, là, qui vient d'être accepté pour publication, dans lequel on a suivi la dynamique du variant alpha. Mmh. On voit très bien d'ailleurs que cette troisième vague était liée quasiment exclusivement au variant alpha.
Et là, Delta Omicron,
alors,
vous y allez?
Eh bien, Omicron, évidemment, dès qu'on a appris vendredi, je perds un peu le fil du temps, mais ça fait quoi, une dizaine de jours maintenant, on a lancé à nouveau des tests de même nature pour rechercher Omicron dans les eaux usées. Et donc, de temps en temps, ça accroche, mais il faut confirmer à chaque fois. Donc, c'est un gros travail dans les eaux usées.
Et ça a bien marché à La Réunion, puisqu'à La Réunion, on a les eaux usées de La Réunion, et on a vu qu'on avait du variant Omicron probablement dans les eaux usées. Et quelques heures après, ils ont confirmé qu'ils avaient un patient Omicron.
Laurent Moulin, très vite, pour terminer, c'est quoi la singularité, s'il y en a une, de l'eau de Paris?
Ah, l'eau de Paris.
Alors,
mais c'est une eau faite par une entreprise publique.
Une caractéristique qui serait reconnaissable entre toutes.
Oh là, reconnaissable. Non. Elle respecte la réglementation. Elle est particulièrement suivie puisque on a des équipes de recherche nombreuses qui travaillent sur sa qualité. Mais je ne sais pas vous donner une caractéristique physico-chimique.
Bon, il y en a pas, quoi, en fait.
Exactement.
Elle est neutre.
Voilà.
Ben c'est tout. Et il y a pas de honte à avoir. Merci beaucoup à tous les deux, Vincent Maréchal et Laurent Moulin. Et merci pour toutes vos questions, amis auditrices. Auditeurs.